Boulevard Huggins le matin sur les ondes de Boulevard 102.1. Pour nous joindre par texto 418-971-1021. Évidemment, la meilleure façon de nous joindre cet été, de nous écouter, devrais-je dire, BLVD 102.1, l'application disponible sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez nous écouter aussi via la web radio au blvd.fm et vous retrouvez également à cet endroit l'essentiel de nos meilleurs moments. Et vous pouvez nous suivre aussi sur twitch.tv/blvd/fm. Je sens que le prochain micro va être un bon moment de l'émission parce qu'on va parler avec l'économiste, notamment que vous retrouvez dans Le Retour de Gravel, mais ce matin, il est spécialement avec nous parce qu'il a écrit une chronique hier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, Économie américaine comme un accident de char au ralenti. Vous allez reconnaître Francis Gosselin. Francis, comment ça va?
Ça va bien, toi, Jeff?
Ça va super bien, Francis. Merci beaucoup de t'être rendu disponible ce matin pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire ou qu'est-ce que tu entends par là, Francis, quand tu dis l'économie américaine, c'est un accident de char au ralenti?
Ben, en fait, c'est que depuis plusieurs mois, là, depuis, dans le fond, le 2 avril, le jour de la libération, on a vu une série de décisions prises par Donald Trump et son équipe qui vont assurément là, avoir un impact sur certaines catégories de travailleurs, certaines catégories de consommateurs, puis certaines catégories d'entreprises aux États-Unis et ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Puis, pour l'instant, on voit très, très, très tranquillement les statistiques se détériorer. Là, on a vu la semaine dernière le Bureau des statistiques du travail là, publier une révision là, de ce qui avait été publié et de la création d'emplois très, très, très faibles aux États-Unis. Et ce qu'on va risque de voir là, au cours des mois, des semaines et des mois qui viennent, c'est qu'en fait, chacun de ces indicateurs-là va se détériorer. L'inflation va repartir très tranquillement à la hausse, la création d'emplois à la baisse, la croissance économique aussi. Fait que de mon point de vue économique, c'est comme un accident de char au ralenti, c'est-à-dire tout ceci aurait pu être évité, mais Donald Trump persiste et signe avec des très mauvaises décisions économiques, puis ça va faire très mal, malheureusement, à l'économie américaine.
Côté statistique, et tu inquiètes d'ailleurs par le congédiement d'Erica McIntaffer, la chef de la principale agence statistique économique des États-Unis, qui a été remerciée à la suite, là, justement, de révision au niveau de la création d'emplois à la baisse?
Ben, je suis pas inquiet, mais c'est simplement ce que ça indique, c'est qu'en fait, on a des chiffres qui sont émis par des agences indépendantes. Chez nous, on a Statistique Canada, on a l'Institut de la Statistique du Québec. C'est des économistes, c'est des statisticiens, c'est du monde très plate, là, je veux dire. C'est pas des activistes là, qui travaillent dans ces business-là généralement. Et là, tu as donc cette madame qui était la commissaire là, du Bureau of Labor Statistics qui fait une révision. Là. C'est rien de plus basique. Là. C'est des chiffriers Excel. Tu sais, c'est vraiment là, de la science économique, de la science statistique.
Des révisions qu'on voit dans le commun des mortels, Francis,
qu'on
normalement?
On voit tout le temps. Là, au Canada, c'est régulier là, qu'on dit ah, ben, finalement, avec les nouvelles, tu sais, les données là, sur l'emploi, là, c'est secteur par secteur, entreprise par entreprise, c'est plein de petites affaires. Puis là, il y a toujours une pression de publier ça le plus vite possible parce que on prend des décisions de politique économique, des décisions de banque centrale en fonction de ça. Fait qu'il y a toujours une pression de publier très vite. Mais c'est sûr que si tu donnes une couple de semaines, une couple de mois de plus, des fois, tu obtiens des nouvelles infos et tu dis, hey, finalement, les chiffres de mai, les chiffres d'avril, c'était pas tout à fait ça. Voici le chiffre le réel. Puis là, aux États-Unis, on avait dit que c'était 300 000 emplois là, en deux mois. Et finalement, la révision, c'était que c'était 30 000 emplois en deux mois, donc 15 000 par mois, ce qui est vraiment, vraiment faible pour une économie de 350 millions d'habitants. Et donc ça, Trump dit finalement que c'est comme une attaque là, de Mme McIntyre qui a été nommée par Biden et tout. Mais je réitère, là, des statisticiens, là, c'est pas des activistes politiques. C'est du monde vraiment plate qui font des jobs quand même assez... C'est by the book. Donc, il l'a licencié parce que les chiffres ne lui plaisent pas. Mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va possiblement nommer quelqu'un qui va émettre des chiffres pour plaire au président. Alors que pour moi, le travail de ces organisations-là, c'est de donner les chiffres les plus exacts pour que les investisseurs, pour que les ménages, pour que les décideurs prennent les meilleures décisions possibles. Donc, si tu peux plus te fier aux données, honnêtement, on a un gros, gros problème.
On dit que les marchés boursiers sont tout de même un bon indicateur de la confiance des entreprises envers l'économie. Si on prévoit ou on prédit éventuellement un effondrement économique, ce sera quoi les premiers signes de cet effondrement?
C'est une très bonne question parce que puis tu fais bien de le remarquer, Jacinthe. Tu sais, hier on a eu une journée extraordinaire là, c'est dans les marchés boursiers. Ouais. Puis moi, ce que je vois aussi actuellement quand j'observe les marchés de manière générale, c'est effectivement un marché qui est très fort, là, qui la croissance est soutenue. Il y a eu une petite inquiétude en avril, là, on avait perdu à un moment donné, là, je pense 15% environ, mais ça a tout de suite repris.
Ouais.
Ce que j'observe quand même, Jacintel, c'est que tu regardes les moyennes historiques, là, mettons, les valorisations, là, c'est-à-dire tu prends la valeur en bourse puis tu divises par le profit que la compagnie a fait, là, ça a aucun bon sens, là, c'est-à-dire qu'on achète à un prix très 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 élevé les entreprises cotées en bourse actuellement. Ce qui veut dire que tôt ou tard, il va y avoir une correction. Là. Il doit y avoir une normalisation. C'est pas normal là, d'acheter à 50, 100, 200 fois les profits. C'est pas rentable à la limite pour les investisseurs. Donc actuellement, comme tu dis, il y a une grosse confiance des investisseurs. Mm-hmm. Je pense que c'est biaisé, notamment parce que tu as quelques entreprises, là, les Nvidia, oui. Apple, Google, qui elles vont très, 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 très bien. Mais si tu regardes les entreprises PME, là, manufacturières, la business un peu normale là, qu'on connaît, là, monsieur, madame, tout le monde, ces entreprises-là vont pas très bien, honnêtement. Si tu enlèves le top 10 du S&P 500, c'est comme de la stagnation qu'on observe.
Oui.
Puis ça, c'est là qu'il y a des emplois. Là, je veux bien Google, Facebook, mais tu sais, c'est une poignée de monde qui travaille là. Les millions et les millions de jobs, c'est dans les fabricants d'autobus, puis dans les fabricants d'acier, puis tout ça. Puis ces entreprises-là vont pas super bien aux États-Unis. Si ça se met à décliner, je pense que ça va avoir plusieurs conséquences fâcheuses là, pour les Américains puis pour les politiciens américains aussi éventuellement.
Est-ce qu'on on pourrait se retrouver avec un 2008 qui revienne?
C'est pas la, ben, je vois pas ça de la même façon parce que 2008 c'est vraiment une bulle très spécifique, la bulle immobilière qui a ouais. éclaté comme en 24 heures, puis tu sais Bear Stearns, Lehman Brothers, des faillites de banques là, en rafale. Comme je dis, ce que je m'attends, c'est plus qu'on a besoin d'une correction, tu sais, on a besoin de ramener, remettre les pieds sur terre, puis éventuellement, ben c'est sûr que rajoute à ça. Tu sais, 50% de tarifs sur l'acier, sur l'aluminium, sur le cuivre. T'as plein de business, là. On l'a vu avec General Motors, tous les manufacturiers Ford, Stellantis, mais aussi tous ceux qui fabriquent, là, tu sais, n'importe de l'acier pour l'immobilier commercial, etc. Soudainement, ton principal intrant, il te coûte 50% plus cher. Fait que General Motors, à eux seuls, ils ont indiqué que ça leur avait coûté 1 milliard de dollars. 30% de leur profitabilité est allé à payer des taxes, là, à payer les tarifs à Donald Trump. Donc, ultimement, ce que je vois, c'est qu'on va revenir sur terre dans les valorisations juste parce qu'il y a ces nouveaux coûts-là qui n'ont pas été pleinement intégrés là, dans les calculs des investisseurs.
Est-ce que, Francis, on va assister à ce que les gens disent depuis longtemps, c'est-à-dire que la grogne va venir de l'interne aux États-Unis et que ça va faire en sorte que Donald Trump va diminuer ses tarifs? Parce que là, ce que tu me parles, c'est des compagnies qui mangent directement dans leurs profits sans vouloir nécessairement refiler la facture aux consommateurs. Donc, à un moment donné, les GM de ce monde vont certainement, par leur lobby, tenter d'influencer Donald Trump différemment?
Ah, ben ils le font déjà. Hein. Puis ça, je peux te confirmer, l'industrie automobile est vraiment pas contente actuellement de ce que fait Donald Trump. Puis si on peut isoler cette industrie-là, il y en a quelques autres. Là. Mais tu sais, la chicane avec le Mexique et le Canada, complètement ridicule. Ça fait 20-30 ans que ces compagnies-là voient l'Amérique du Nord comme un grand marché dans lequel ils peuvent s'installer à telle place, créer de la propriété intellectuelle, développer des usines. Tu sais, on se fiait là-dessus, là, GM, Stellantis, Ford, là, ça n'a jamais été même le soupçon d'une remise en question, là, soudainement, de dire on va mettre des tarifs sur ces pièces automobiles, de mettre des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Ils sont furieux, les fabricants automobiles. Puis en plus, à un moment où les Chinois sont en train de nous manger la laine sur le dos avec des coûts, puis de la subvention étatique, puis tout ce que tu veux, nous, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des taxes, on rajoute des obstacles, on défait le marché unique. Franchement, si je voulais nuire à une économie, à une industrie nationale comme celle de automobile, je ne ferais pas autrement. Là. C'est une catastrophe pour l'automobile. Puis je suis sûr que derrière des portes closes, les Jim Farley, puis ils sont en train de crier après l'équipe de Donald Trump. Simplement, c'est pas très payant actuellement de sortir publiquement en critiquant Donald Trump pour des raisons évidentes. Fait que je pense que tout ça se fait à porte fermée. Mais c'est sûr que l'industrie automobile n'est pas contente actuellement. Puis il y a plusieurs autres industries comme celle-là.
On vient de parler avec la fondatrice de Brillance et Melrose, Marie-Pierre Chouinard, une entrepreneure qui va ouvrir ou qui a ouvert un entrepôt à Baie-Saint-Paul pour contourner les tarifs douaniers. Mais à force de décortiquer son modèle d'affaires, on comprend qu'elle s'installe au Canada pour contourner les tarifs douaniers canadien. Parce qu'on le sait, le Canada applique des tarifs aussi en soi-disant riposte aux Américains. Si ces tarifs-là font si mal que ça à l'industrie américaine et te laissent présager un avenir plus sombre, est-il temps de revoir nous aussi nos tarifs de notre côté?
Ah, moi, Jacinthe, tu connais ma position là-dessus. Moi, je suis un pur anti-tarif. Et donc, cette idée de contre-tarif, je l'ai dit depuis le jour 1, puis j'arrête pas de le répéter, c'est une bêtise. Qui plus est, tu sais, l'économie canadienne, là, déjà, on stagne depuis 10 ans. On a un plus petit PIB par capita. On est 40 millions. Je veux dire, on se bat à armes très inégales. Là. On est 10 % même moins, là, 8 % de la taille de l'économie américaine. C'est pas vrai que un pour un, là, si les Américains décident de mettre $1 de tarif, on va mettre $1, puis jusqu'à l'infini, là, on va perdre. Tu comprends? À un moment donné, ouais. On va être mort, puis eux, ils vont comme avoir à peu près éternué. Là, tu sais, fait que cette idée de se battre contre les Américains quand on est le Canada avec des contre-tarifs est complètement ridicule. Et comme tu le dis, à qui ça fait mal? Qui paye les tarifs? Soit les entreprises, soit les consommateurs du pays qui les impose.
Ouais. Donc là,
on fait la morale à Donald Trump en disant c'est contre ton affaire, c'est pas ce que dit la science économique, arrête de, tu sais, t'imposes tes propres citoyens, tes propres entreprises, et on a une belle jambe de faire exactement l'inverse, comme tu dis. Donc moi, j'implore les gouvernements canadiens, québécois à ne pas mettre en place de contre-tarifs. Il y a d'autres affaires qu'on peut faire. On pourrait mettre des tarifs à l'exportation. On pourrait faire plein d'affaires, mais des contre-tarifs, c'est juste les Canadiens qui vont finir, les Québécois qui vont finir par les payer.
Francis, dis-moi donc, si l'économie américaine, c'est comme un accident de char au ralenti, qu'on s'en va vers de l'inflation et une crise économique. Est-ce la même chose au Canada? Parce que j'ai l'impression que Mark Carney regarde les mêmes indicateurs que Donald Trump et dit « Ah, OK, mon PIB augmente quand même. J'ai pas trop d'impact à l'heure actuelle. » Il a même sorti vendredi en disant « Ben, vous savez quoi? Même si on a 35 % de tarifs, on reste les moins tarifés sur la planète parce qu'on a l'entente économique États-Unis, Canada, Mexique. » Trouves-tu que Mark Carney se la coule douce aussi dans cette situation économique?
Deux choses. La première affaire, puis tu sais, je veux quand même, on a encore au moins des bonnes statistiques au Canada. Fait que, on en parlait au début de l'entrevue.
Des meilleures statistiques aux États-Unis?
Oui, puis tu sais, moi, comme dans ma job d'économiste, d'avoir des bons chiffres, c'est comme la base de la base. Puis tu sais, au Canada, il n'y a aucune remise en question du recensement, des données sur la croissance. Fait que là-dessus, au moins, on est... Ça, c'est pas Carney. Tous les premiers ministres qu'on a eus, jamais personne n'a remis ça en question. La deuxième chose, on l'a dit mille fois, mais l'économie canadienne, du moins 20 % de l'économie canadienne est dépendante de l'exportation vers les États-Unis, à peu près à 80 %. Ceci dit, depuis l'arrivée au pouvoir de Mark Carney, puis c'est pas Mark Carney encore une fois, mais c'est les entreprises, c'est tout le monde ensemble, on est passé de 80 à un petit peu moins de 70 % là, de nos exportations qui vont vers les États-Unis. Ça reste énorme, mais si on perd un autre 5, un autre 10, puis qu'on arrive à 60, puis à 50, puis à 40, ça sera pas facile, puis il y aura toujours des biens qui vont être très difficiles d'exporter ailleurs, mais l'idée, c'est graduellement de décorréler l'économie canadienne de l'économie américaine, et ça, encore une fois, ça fait 50, 100 ans qu'on fonctionne de même, ça se fera pas en un trimestre. Donc, ce que doivent faire tous les chefs politiques, là, Carney, Ford, Legault, etc., c'est de trouver d'autres débouchés. Puis là, tu sais, on le voit avec l'Alberta, c'est pas facile. Tu veux exporter ton pétrole, bien, Christy, il faut des pipelines, ça prend une décennie à faire, ça coûte 40 milliards de dollars. Mais à terme, ce qu'il faut penser, c'est comment est-ce qu'on peut trouver d'autres marchés d'exportation pour moins dépendre des États-Unis. Puis le jour où Donald Trump s'en ira, puis où on pourra trouver un pays plus ami, plus accueillant de nos exportations, bien, on reprendra cette relation-là. Mais pour l'instant, force est d'admettre qu'on est dans une situation hostile face aux États-Unis, du moins de leur part. Il faut continuer d'essayer de les amadouer, trouver des façons de leur montrer qu'on veut leur bien puis qu'on a des choses intéressantes à leur vendre. Mais entre-temps, regarder partout ailleurs, ça va prendre du temps. Fait que moi, je suis pas de ceux qui peuvent dire après 3 mois au pouvoir, Mark Carney, il est bon ou il est pas bon. Honnêtement, c'est pas ça le time frame qu'on a besoin de regarder. C'est 1 an, 2 ans, 5 ans, là, tu sais. Et donc, évidemment, c'est très ingrat, quel que soit le leader politique, de voir des résultats au jour le jour, à la semaine, de dire il fait une bonne job ou il fait pas une bonne job. C'est une affaire de génération quasiment qui est en train de nous arriver.
Alors, est-ce qu'on applique les mêmes critères pour juger des actions de Donald Trump puis de regarder dans une portée à moyen et long terme qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce qu'il faut savoir que ces tarifs s'accompagnent aussi de baisses importantes d'impôts pour les entreprises. entreprises, voire ils visent zéro impôt. Là, on verra ce qui est capable d'arriver. Mais si on place en contexte que ces tarifs-là sont aussi accompagnés de baisses importantes d'impôts pour les entreprises, ça pourrait changer la donne à moyen et long terme?
Ça pourrait, puis honnêtement, tu me connais aussi ma position là-dessus, Jacinthe. Je suis aussi partisan de baisses importantes d'impôts sur les entreprises. Je pense que c'est ridicule d'être à ce point non concurrentiel au Canada, puis on décourage l'investissement, on décourage le réinvestissement, on décourage la recherche. On a un système au Québec, au Canada, où ce qu'on prend énormément dans la poche des entreprises, puis après ça, on donne des subventions. Là. On choisit des gagnants, des perdants. Ce que dit Donald Trump, c'est qu'on coupe là-dedans. Le problème que je vois, par contre, c'est que là, la nouvelle mouture là, de leur budget, le Big Beautiful Bill aux États-Unis, est assortie de coupes importantes dans les impôts, les taxes pour les entreprises et les particuliers, ce qui est une bonne chose, mais ça va mener à un déficit qui a comme pas de maudit bon sens, genre 4 billions de dollars, le trillions des, ouais. des Américains. C'est incroyable comme déficit. Et les revenus qui vont provenir des tarifs, on parle de quelques centaines de milliards de dollars au mieux. Fait qu'il y a comme pas d'équivalence là, entre ces deux chiffres-là. Il faudrait tarifer tout ce qui entre aux États-Unis à 100% pour que ça vaille la peine, mais à 100%, il y aurait plus rien qui rentrerait parce que ça serait plus du tout intéressant pour les importateurs. Donc, il y a comme... On parle pas du même ordre de grandeur.
Ouais.
Fait que oui, ça va faire du bien, ça va stimuler l'entrepreneuriat, ça va stimuler le réinvestissement, mais malheureusement, le problème, c'est que ça va aussi ajouter d'autres coûts pour ces entreprises-là dans le coût de leurs intrants, dans le coût de la main-d'œuvre, etc. Fait que ça s'équivaut pas à la fin. Le système qu'on avait, là, puis je veux pas dire, mais l'économie américaine était en train de reprendre là, post-COVID, ouais. Les taux étaient sur une trajectoire baissière. Pour plusieurs raisons, certaines valables, d'autres non, Donald Trump a voulu tout changer ça. C'est un gros pari. Puis t'as raison, Jacinthe, on en reparlera dans 3 ans, dans 5 ans, mais pour l'instant, quand tu casses des choses pour refaçonner la nature de ton économie, c'est assez évident que tu vas passer par une période de ralentissement, voire de récession. Et c'est ça que je dis. Je pense avec un grand degré de certitude que l'automne sera pas joli aux États-Unis parce qu'on va commencer à avoir les impacts de ce qui a été fait dans les dernières semaines. Et ça va faire très mal à plusieurs pans de l'économie américaine. Il y en a qui vont bien s'en sortir, là. J'ai aucune inquiétude pour Facebook puis Google. Mais malheureusement, vous puis moi puis les gens qui nous écoutent, c'est pas là qu'ils travaillent. Ils travaillent dans des usines, puis ils travaillent dans des services, puis ils travaillent dans le vrai monde. Là, ils sont pas la fleur de sel là, de la technologie. Et ça peut pas être toute ton économie qui est 5-10 entreprises, malheureusement.
Pour rappel, on parle avec Francis Gosselin, économiste, que vous entendez régulièrement dans Gravel, dans le retour à Boulevard 101. Francis, on voit que dans le bois d'œuvre, il y a eu un ressac au niveau canadien, notamment fermeture de la scierie Saint-Michel. On a parlé avec Jean-François Champoux, le PDG, hier. Qu'est-ce qu'on doit faire du côté du Canada? Est-ce qu'on doit justement venir diminuer nos mesures fiscales, les impôts, la bureaucratie pour permettre à ces gens-là de s'en sortir plutôt que de les subventionner?
Ben oui, on peut faire l'un et l'autre là, et être plus gentil côté fiscal et subventionner et tout. Mais tu sais, quand je vous disais qu'il y a quand même des industries qui va, tu sais, quand je disais là, il va toujours y avoir une certaine proportion de notre économie qui va rester en partie dépendante des marchés de proximité comme les États-Unis, ben le bois en est une. Tu vois pas des 2x4 de 8 pieds là, qui se vendent 4$ chez Canac, là, tu vas pas envoyer ça en Europe. Là. D'ailleurs, qu'il y a plein de bois. Là, fait que c'est ça le problème. Il y a des industries qui sont comme
incompréhensibles. On a les mains liées avec les États-Unis, là.
Ben c'est ça, tu sais, des affaires de la forte valeur ajoutée, des produits finis, même l'aluminium, ça coûte cher de la tonne, ça s'exporte, le coût de transport est comme un peu négligeable par rapport au prix de la patente, mais du bois, tu sais, je veux dire, unitairement, ça coûte pas grand-chose de mettre ça dans un container, sur un bateau, envoyer ça à l'autre bout du monde, il y a aucun modèle d'affaires où c'est profitable, la seule façon, c'est ça de construire davantage en bois, puis ça, je salue Jean Boulet, là, qui a libéralisé un petit peu ça au Québec, on pourra faire des grandes tours en bois, etc. Mais le principal marché d'exportation, ça va toujours être les États-Unis pour le bois d'œuvre. Fait que ça risque d'être, tant qu'on n'a pas une entente cadre pour l'ensemble de nos exportations, tant qu'on ne peut pas essayer d'exempter le bois d'œuvre, ça va être une période très difficile. Puis c'est plate parce que ça fait longtemps que c'est difficile dans la forêt au Québec, au Canada.
Oui, M. Champoux nous disait là, des grosses problématiques depuis 2017.
Oui, ouais, je suis très conscient de ça. Fait que, je, malheureusement, j'ai pas de solution facile ou magique pour cette industrie-là. On peut la garder artificiellement un peu en vie, on peut en acheter plus localement, mais de passer d'un marché de 350 millions au Québec puis l'Ontario, honnêtement, il n'y a pas d'équivalence, encore une fois.
Francis Gosselin, économiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Je sais que le PIB au Canada a été plombé par notre immigration massive, mais il reste que notre PIB par habitant est toujours très inférieur, que ce soit le PIB nominal ou le PIB par habitant est très inférieur ici au Canada par rapport aux États-Unis. Alors, quand tu prédis presque la catastrophe aux États-Unis, alors qu'ils ont une économie plus robuste, plus saine, plus solide aussi, comment tu entrevois ça, notre posture en lien notamment avec notre PIB?
Ben, c'est assez, tu sais, bon, juste être clair, l'immigration n'a pas plombé le PIB, il a plombé le PIB par capita.
Par capita,
en fait,
oui.
Le PIB par capita, c'est que tu prends le chiffre du haut, là, tout ce qui est produit dans l'économie, puis tu le divises par la population. Fait que c'est sûr que si tu ajoutes 1 million, 2 millions de personnes, ben, le chiffre d'en bas avec lequel tu divises fait en sorte que le PIB par habitant a tendance, oui, à stagner, voire à baisser. Bon, j'ai plusieurs. C'est une longue question, là, Jacinthe, on pourra en parler longtemps, mais tu sais, la première affaire, c'est que l'immigrant, le jour qu'il arrive, il produit pas grand-chose. Il cherche un appart, il apprend à parler français, etc. Souvent, il y a comme un effet de décalage. Tu sais, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant que l'immigrant il produise vraiment quelque chose en termes de PIB. Fait qu'il pourrait y avoir un effet décalé qui serait positif par rapport à l'immigration. Pour l'instant, là, on est un peu ambivalent. On en accepte-tu des immigrants, on en accepte-tu pas? Tu sais,
non, mais historiquement, on a quand même un écart majeur avec les États-Unis, puis c'est historique,
ouais,
ça n'a rien à voir.
La piste de solution, justement, c'est là que j'en arrivais, n'est pas tellement liée à l'immigration. Notre gros enjeu au Canada, immigrant ou pas, c'est la question de la productivité, c'est la question de l'investissement R&D, c'est la question de l'investissement en automatisation. Puis ça, je réitère, qu'est-ce qu'on a fait au Canada depuis quelques années, au Québec en particulier, c'est qu'on a lourdement taxé les entreprises, puis après ça, on a dit à Investissement Québec, puis à MEIA, puis à un paquet de programmes, donner des cadeaux à ceux qui font à peu près ce qu'on veut. Tu sais, fait que moi, je serais plutôt partisan de dire, coupe tout ça, là, ce niaisage-là de fonctionnaires, de bureaucrates là, qui choisissent des gagnants et des perdants, sabre massivement dans les impôts des entreprises, puis donne-leur des incitatifs à investir en automatisation, en productivité, en R&D, en propriété intellectuelle. C'est là que tu fais de l'argent, là, je suis désolé. Oui. L'enjeu actuellement, c'est qu'on est tellement lourdement taxé dans les entreprises canadiennes, québécoises, que ce qu'on fait, c'est qu'on, au lieu d'automatiser, on trouve un employé de plus. On jette des paires de bras sur les problèmes, au lieu de se casser le bécic, puis d'essayer d'inventer des choses. Fait que c'est là qu'est la solution, à mon avis. Plus de productivité va amener plus de richesse par habitant. Ça, les Américains le font très bien, les Canadiens pas mal moins, malheureusement.
Donc, on a travaillé là-dessus, Francis, selon toi.
Oui, effectivement, c'est la piste sur laquelle, puis là, il n'y a pas juste moi qui le dis, là, tous les économistes sont unanimes là-dessus. Il faut innover, il faut investir en productivité, en automatisation. C'est la seule façon qu'on va s'enrichir collectivement, quel que soit le niveau d'immigration. D'ailleurs, si on investit massivement là-dedans, on pourrait accueillir 1 million d'immigrants par année. Et là, actuellement, on fait du surplace. Fait que là, on invite des nouvelles personnes à venir chez nous. C'est des paires de bras, c'est du cheap labor. C'est pas comme ça que tu crées une économie forte, malheureusement. Ça, c'est assez évident.
Francis Gosselin est économiste. Il est régulièrement dans Gravel, dans le retour. Vous pouvez le lire également dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Francis, je te remercie infiniment pour ta participation spéciale ce matin à l'émission Boulevard Against le matin. Et je te souhaite une excellente journée. Au plaisir de se reparler.
Merci à vous.
Merci.
Bonne journée. Salut Francis, bonne journée. Alors, super intéressant cette entrevue chronique avec Francis Gosselin. J'aime toujours ça, avoir les deux côtés de la médaille. Maintenant, ça sera de voir. Ça sera de voir au mois d'octobre. Est-ce que justement les États-Unis sont dans un accident de char au ralenti ou les États-Unis vont s'en sortir mieux que ce que Francis prédit au niveau de cette guerre tarifaire? On se donne rendez-vous au mois d'octobre, Jacinthe-Ève?
Ah ouais! Hein? Au mois d'octobre, cette année, l'année prochaine, dans trois ans, dans 4 ans.
Mais je suis d'accord avec toi qu'il va falloir valider le tout sur du long terme. Oui. T'es, autant aux États-Unis qu'au Canada. T'es même au Canada, hier, on a fait une entrevue avec Jean-François Champoux. T'es, c'est catastrophique ce qui se passe à Saint-Michel-des-Saints avec la Syrie qui ferme pour 3 mois. 300 pertes d'emplois dans une communauté de 2 800 personnes. Mm. Mais il faut pas paniquer avec cet événement-là, même si c'est très difficile, parce que, je le répète, c'est très dur pour cette communauté, mais il va falloir plus l'évaluer sur le long terme, sur le 3-4 ans. Donc, il va falloir l'évaluer sur le mandat complet de Donald Trump, comme il va falloir l'évaluer sur le mandat complet de Mark Carney. Moi, ma boule de cristal me dit qu'ils vont repartir à peu près en élection pareil, vu qu'il y en a un qui est minoritaire, puis l'autre est majoritaire. Fait qu'on risque d'avoir des campagnes rapprochées, selon moi, et c'est là qu'on pourra juger, justement, de la compétence ou de l'incompétence de ces deux dirigeants-là.
Oui, puis, tu sais, pour revenir à l'histoire de la Syrie hier, je sais que tu voulais pas t'en aller là, Jeff, mais je pense que ça vaut la peine de faire une petite parenthèse.
Let's go.
J'ai beaucoup d'empathie puis de respect là, pour ceux qui ont... d'empathie pour ceux qui ont perdu leur emploi,
ben oui.
De respect aussi pour le PDG qui a pris la décision avec toutes les en toute connaissance de cause. Mm-hmm. Il reste que je repensais à notre entrevue hier, puis j'ai passé la journée à réfléchir à ça, puis je me demandais s'il n'y avait pas un peu de difficulté à gérer le risque associé à ça. Est-ce que son carnet de commandes était vraiment tout d'un coup, du jour au lendemain, tellement vide qu'il s'est dit « la Syrie n'a plus de commandes, c'est fini, puis je ne peux pas aller cogner à la porte de d'autres mm-hmm. acheteurs, il n'y a plus d'acheteurs, c'est fini ». Où il y a une intolérance au risque et dans cette intolérance au risque ou une incapacité au niveau des liquidités parce mm-hmm. qu'à un moment donné, si tu vends moins un peu, as-tu de l'entrepôt pour stocker ton stock en attendant? Les difficultés d'approvisionnement aussi, on sait que ça coûte de plus en plus cher pour les Syries de s'approvisionner en bois.
Ouais.
J'ai trouvé là, qu'il manque de détails là-dedans. Je serais curieuse peut-être de parler à un autre PDG mm-hmm. d'une autre Syrie, mais qui est encore en fonction pour voir si c'était-tu une faible tolérance au risque.
Ouais, c'est une bonne idée, ça.
Ou une faible liquidité là, au sein de l'entreprise qui faisait qu'il n'était pas capable d'absorber la moindre variation. Parce que, tu sais, normalement, tu as des vendeurs qui vont chercher des nouveaux acheteurs. Si tes acheteurs te lâchent, tu vas chercher des nouveaux acheteurs. Je trouve ça particulier.
Bien, j'ai trouvé vite sur la gâchette, moi aussi. Ouais. Même principe pour Manac au niveau des semi-remorques en Beauce, où on a remercié là, 140 quelques employés.
Ouais.
Parce que... sauf erreur, j'en ai pas vu d'autres.
Ouais.
Gravité dans les médias, puis je check beaucoup sur les médias sociaux aussi. Je vérifie, je valide. Il y a toutes d'autres entreprises qui viennent de fermer. Je sais qu'Yannick Marceau également, qui anime le midi ici, est très actif là-dessus aussi.
Ouais.
Donc, c'est un bon point à savoir est-ce qu'il était assez tolérant au risque? Est-ce que c'était déjà une entreprise, malheureusement, qui était en difficulté financière? Puis là, ça a été le fameux coup de barre.
Mettons que t'es le RTC, là, puis que ton équipe est pas productive, puis t'es en conflit de travail, puis ils veulent pas être productifs, là, puis t'as un beau scénario qui te permet de dire, regarde, on ferme le RTC de toute façon, les tarifs de Donald Trump. Mettons là, que tu peux faire
mettons.
Ça. Peut-être que ça règle des conflits de travail, peut-être
en
que
effet.
Ça règle d'autres enjeux de déficit de l'organisation, mm-hmm. quelque chose comme ça.
Non, ouais. C'est un bon point, puis c'est une des raisons pourquoi je tenais à faire l'entrevue aussi avec Marie-Pierre tout à l'heure, parce que là, on a vu un autre côté de la médaille.
Oui, c'est vrai.
Quelqu'un qui fait, OK, là, il m'arrive cette situation-là. Comment je pourrais bien me débrouiller pour faire en sorte que mon entreprise continue de fleurir? Puis, c'est pas anodin de dire, OK, j'ai mon entrepôt au Nevada. Je fais justement l'essentiel de mon entrepreneuriat au Nevada. Mais là, tiens, je vais aller installer quelque chose à Baie-Saint-Paul, dans mon patelin d'enfance. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ça prouve une débrouillardise incroyable. Mais surtout aussi, je pense, une compagnie qui est en santé financière aussi, là, pour pouvoir se permettre cet investissement-là. Là. Les fameux investissements, justement, puis là, je fais un parallèle que Francis vient de parler en termes d'automatisation, en termes de productivité, justement. Souvent, c'est le fiscal des entreprises et la bureaucratie qui font en sorte qu'au Canada, on n'a pas d'argent pour investir là-dessus.
Ah, ouais.
On le donne à notre gouvernement.
Ben oui, Francis Gosselin vient de nous le dire. Là.
C'est ça.
On n'investit pas assez en recherche et développement, ni en innovation, donc on est moins productif, puis pourquoi? Bien, les entreprises, ils ont une petite marge de profit, puis le reste retourne en salaire, en frais d'opération, en frais fixes, puis aussi en impôts, en taxes, impôts
Exactement.
À pu finir, des pénalités, des permis, des ci, des ça.
Puis c'est la même chose pour les gens individuellement, parce qu'on a David qui nous écrit, qui nous dit « Les impôts sur le salaire m'incitent à faire plus d'heures. Quand je fais des semaines de 32 heures, je gagne à peine moins que 40 heures. C'est juste pas normal. » Mais en effet, t'es même au niveau individuel. Une personne comme David regarde ça et dit « OK, pourquoi je travaillerais 8 heures de plus pour 40 piastres de plus en bout de ligne?
Ouais.
Je vais être à 32 heures, je vais pouvoir prendre soin de mes enfants, ma famille, je vais pouvoir faire des loisirs. » T'sais. Donc, il y a cette iniquité-là lorsqu'individuellement, tu arrives à une certaine strate d'impôt. Quand tu franchis une certaine limite, puis je le sais, je l'ai déjà vécu, que tu dis... OK, crime, mon patron vient de me donner une augmentation salariale,
apparaît
mais
même
finalement,
pas.
Elle apparaît pas pantoute. Ouais. Et 15 piastres de plus par paye.
Oui, c'est ça. C'est complètement ridicule.
Mais on m'a récompensé pour mon bon travail.
Oui, c'est ça.
Mais dans le fond, mon bon travail, je viens de le donner au gouvernement.
Ouais. Non, puis la même chose avec les personnes retraitées aussi. Il y en a plusieurs qui sont clairement encore en forme, qui aimeraient ça travailler à temps partiel, puis ils font le calcul que ça vaut pas la peine parce qu'ils paieraient tout en impôts.
C'est ça.
Et en déduction de toutes sortes.
Oui, alors c'est des travailleurs qu'on se prive, justement, dans une pénurie de main-d'œuvre, même si elle est moins pire qu'elle était. Ouais. On a encore besoin quand même des personnes retraitées, je le répéterai jamais assez. C'est des gens d'expérience, c'est des gens compétents, puis on se prive d'eux.
C'est nos préférés chez Home Depot.
C'est clair!
Chez Rona.
Oh, prends soin de moi!
Ah?
L'enfer!
Hey.
Je les adore!
On court après
les autres.
Quand il m'en arrive un là, d'une vingtaine d'années, là, je suis là, ah, non, je regarde à terre, je veux le monsieur...
Je veux le monsieur
en fin de carrière ou retraité, là, tu sais, qui va être capable de, quand je vais y expliquer mon problème, puis dire, gars, j'ai telle patente, telle affaire, j'essaye de faire telle affaire, il va tout m'expliquer comment.
Qu'il l'a déjà bricolé.
Ah ouais.
Là, mon petit monsieur, là, je vais vous expliquer comment vous allez faire ça. Ouais. Là, vous allez aller chercher tel outil, check bien ça, nan, tu vas couper ça de même, là, ça te prend des 2x4 de même, attends une minute, ça tombe bien, je n'ai en inventaire. Ah ouais. T'en ressors de là, là, pendant 20 minutes, il t'a étourdi, mais ton problème est réglé.
Ouais.
Tu repars à la maison, tu dis là, je t'en confiance. Je suis comme le go canac m'en va bâtir ça.
Ouais, hein?
Puis là, quand t'es manuel comme moi, ben, ça marche pas toujours comme il me l'a dit, mais c'est pas grave. Au moins, le monsieur du canac m'a bien renseigné. Là, c'est ça. Alors, voilà, c'était la chronique Francis Gosselin. Toujours intéressant que vous pouvez entendre dans Gravel dans le retour. On fait une courte pause, on revient avec l'essentiel des manchettes. Et Jacinthe, je veux te faire écouter des extraits de l'excellente chronique de Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. À chaque lundi, ça honnêtement, cher auditeur, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À chaque lundi, il est avec la gang de Yannick Marceau, avec Yannick et Pascal. Et là, il nous a parlé de coupure hier dans le budget au Québec. Pourquoi la CAQ ne l'a pas fait? Quand est-ce que la CAQ devrait le faire? Des comparatifs avec la fameuse austérité libérale de Philippe Couillard. Donc, je veux te faire entendre ça. C'est vraiment des extraits très, très, très intéressants.
Si vous payez de l'impôt, puis si vous payez de l'impôt, Nicolas Gagnon, c'est votre voix, là, parce qu'il représente les contribuables.
En plein ça. Donc, il représente nous tous, les auditeurs. Alors, restez les nôtres. Vous êtes à Boulevard Against le matin sur Boulevard 102.1. Boulevard 102.1. Pour rejoindre.